Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Alice Driss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maman d'un petit Isaac de 4 ans, il est porteur de trisomie 21. Vous avez fondé en 2021 l'association M21 qui propose une écoute aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de trisomie 21 détecté en cours de grossesse ou à la naissance. Et vous parcourez la France pour donner une conférence intitulée « Être différent, c'est normal » et pour sensibiliser les médecins et le grand public à la trisomie 21. Je voudrais qu'on commence à l'Isdrich par votre histoire, votre propre histoire. Vous êtes mariée avec Vincent et en 2020, vous avez été confrontée à l'annonce du handicap de votre fils Isaac. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, bah en fait, on a eu une super grossesse avec Vincent. Isaac, c'est un petit garçon qu'on a attendu, qu'on a désiré. Donc, énormément de joie. Et puis, on a vraiment idéalisé notre accouchement et l'arrivée d'Isaac parce que on a fait une préparation particulière. On a fait un accouchement naturel. Donc, c'est Vincent qui m'a accouchée, qui a sorti Isaac de mon corps. Donc, c'était vraiment un grand moment. Et effectivement, c'est 2 heures après la naissance que la sage-femme, voilà, est venue nous voir. Et nous a dit qu'effectivement, il y avait une suspicion de trisomie 21 sur Isaac. Alors, il faut bien comprendre que normalement, les sages-femmes, elles n'ont pas le droit de faire ça.
Ah.
C'est les pédiatres, normalement, qui doivent annoncer ça. Mais elle a pris la liberté de faire ça, parce qu'on a vécu 17 heures ensemble, 17 heures d'accouchement, 17 heures d'intimité absolue, d'une grande relation avec elle. On a une sage-femme hors du commun.
Elle se sentait vraiment en confiance avec vous et réciproquement.
Exactement. Et elle avait tellement peur qu'on nous l'annonce mal, qu'elle s'est dit, non, en fait, je vais être la première à leur annoncer.
Quelle délicatesse.
Oui. C'est incroyable. Donc, évidemment, sur le moment, bon, ça a été terrible. Moi, déni absolu, j'ai 25 ans, j'ai pas de trisomie dans ma famille. Cette sage-femme qui a été mon idole pendant 17 heures, d'un coup, devient ma pire ennemie, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, donc, j'en ai beaucoup voulu. Après coup, pas du tout. Mais sur le moment, waouh, ça a été très dur. J'ai eu le sentiment qu'on m'a volé la naissance d'Isaac, en fait. On est rentré dans la chambre. Vincent, lui, il a compris que c'était vrai. Parce qu'en sortant Isaac, il a vu les signes. Il a vu les yeux bridés d'Isaac, qui s'est dit « Ok, ouais, il y a un problème. » Donc lui, il savait que c'était vrai. Donc notre couple, à ce moment-là, est vraiment rentré dans un décalage émotionnel. Vincent, il savait que c'était vrai. Moi, j'étais dans le déni.
Vous étiez dans le déni.
On a arrêté de communiquer, etc. On a vraiment passé par des phases très sombres. Puis surtout, on a posé Isaac dans son landau. Et en fait, Isaac n'a pas pleuré. Jusqu'à ce qu'on rentre chez nous, il n'a pas pleuré. Il faisait pas de bruit, quoi, comme pour
se faire oublier,
ouais,
peut-être
un petit peu. Et puis ce gros tonnerre de cette annonce, bah du coup lui il s'est fait tout discret, quoi. Donc on l'a posé dans son landau et en fait on l'a plus pris dans nos bras parce qu'il y avait vraiment Isaac, la trisomie 21 et nous, quoi.
Allez.
Donc ça a été
tout était séparé.
Voilà, ça a été très traumatique, hein, évidemment. Et puis même moi en tant que maman, c'est traumatique de donner naissance à un enfant qu'on a idéalisé pendant 9 mois, qu'on a projeté, petit garçon, blond aux yeux bleus, etc. Et finalement cette annonce de trisomie 21. Moi, en fait, j'ai eu peur parce que je ne connaissais pas. Et quand M21 est né dans mon cœur, on en reparlera tout
on
à l'heure,
parler.
C'était vraiment ça, pour moi, que je voulais dire aux gens, c'est en fait, quand on n'a pas la connaissance, on a peur. Et ce qui donne la paix, c'est la connaissance.
Je voudrais qu'on revienne sur cette annonce de la trisomie de votre enfant Isaac. Donc la sage-femme vous a dit il y a une présomption, une suspicion de trisomie 21. Et après, ça vous a été confirmé dans quels termes ?
2 jours après.
Deux jours après.
On a eu de la chance déjà parce que normalement, il y avait le week-end. Donc on devait attendre 5 jours. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, le karyotype est arrivé plus tôt que prévu. Donc on l'a su pile avant le week-end. Du coup, déjà, l'attente a été moins longue. L'annonce a été très bien faite. On a vraiment eu beaucoup de chance. Moi, j'aime bien dire qu'on a été bénis parce que pour le coup, la pédiatre qui nous l'a annoncé, elle est décédée il y a pas longtemps d'un cancer. Elle était jeune. Et en fait, je pense souvent à elle. Et j'aimerais bien la remercier Dieu du ciel et voilà, lui dire que elle a changé à jamais notre acceptation d'Isaac. Tellement elle a bien fait. Elle nous a mis dans un bon contexte. Elle nous l'a annoncé à tous les deux, Vincent et moi. Elle a pris une voix toute douce. Et elle nous a dit, voilà, le résultat de la prise de sang vient de tomber. Isaac est porteur de trisomie 21. Mon mari qui est tout de suite, pour lui, en fait, à partir du moment où il l'a su, il était dans le pratico-pratique. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle, tout de suite, elle l'a calmé, elle a dit, Monsieur Driss, votre enfant, là, il est comme un autre enfant. La seule chose dont il a besoin, c'est de votre amour. Donc, aimez-le. Créer une relation avec lui. C'est la seule chose dont il a besoin. Et la trisomie, ça viendra après.
Et le Donc fait elle n'a pas insisté sur des considérations médicales.
Exactement. En fait, elle ne nous a pas parlé de chromosomes, elle ne nous a pas parlé de mutations, elle n'a pas parlé de gènes. Voilà, elle a été absolument dans l'empathie, dans la compassion, dans la bienveillance, et elle nous a replacés dans notre parentalité. De nous dire, en fait, vous êtes capable, vous êtes un couple, vous êtes parent. Isaac, là, c'est un bébé. Et en plus, je précise, Isaac n'a aucune pathologie associée à sa trisomie 21. Donc, à la naissance, Isaac n'a eu aucun souci de santé. On n'a pas eu besoin d'avoir des vérifications. C'était un petit bébé vraiment comme les autres. Et le fait qu'elle nous dise ça, pour nous, ça a été absolument incroyable. Parce que ça a été vérifié dans notre acceptation. Où, du coup, quand on est rentré chez nous, c'est bon, c'était parti.
Mais alors vous dites que quand vous êtes rentré chez nous, vous aviez ce petit garçon, ce petit Isaac qui était dans son berceau. Il y avait encore cette séparation entre lui, la trisomie, et puis vous, cette acceptation qui n'était pas à la même vitesse pour votre mari et pour vous. Et comment vous avez pu finalement rassembler tout ça, faire l'unité?
Déjà, il y a évidemment la première chose qui nous a porté dans notre foi, parce qu'on est croyants. Et je remarque aussi à M21, les gens que j'accompagne qui sont croyants, qui sont de religion juive, de religion confession musulmane, etc. En fait, la foi, c'est quand même un socle énorme. Quand on traverse une épreuve et qu'on prie, c'est très puissant. Donc pour nous, déjà notre foi, hein, c'est la première chose qui nous a porté. Et on a vraiment senti dans la prière, dites-vous à Isaac, d'une manière inconditionnelle. Et on lui a dit oui. Et on a vraiment vécu cette expérience. Après, on a vécu un autre événement très fort, c'est que le samedi matin, on a donné le premier bain à Isaac. On est toujours à la maternité, samedi matin 6 mars. Et il y a un médecin voilà, qui, malheureusement, pendant le bain, va s'approcher de nous. C'est un pédiatre. Bah, lui, il n'est pas très gentil. Il va nous dire « votre vie va être terrible ». Et il va poser ses paroles sur nous. Et waouh, pour moi, à ce moment-là, c'est à nouveau la redescente. Parce que je me dis « c'est pas possible, on l'a annoncé la veille aux familles, on a reçu de l'amour ». Bon là, bam, tac, ça retombe. Et là, il va se passer une sorte un peu de miracle, en tout cas pour nous, c'est qu'on a quatre de nos amis qui ne se concertent pas, qui ne se connaissent pas, qui, dans l'après-midi du samedi, vont prier pour nous et ils vont recevoir tous les quatre la même parole biblique. C'est la parole en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que je forme sur vous, dit Dieu, projets de paix, de bonheur, et non des projets de malheur. » Et quand on reçoit cette parole du médecin de matin, et à quatre reprises la parole de Dieu l'après-midi, on se dit «
C'est
okay.
une sacrée consolation, là !»
C'est une sacrée consolation, et on s'est dit « Ok, ben on y va. » Et c'était, on avait un peu l'impression d'être comme dans l'évangile de Matthieu, de « Ok, jette tes filets ». Jésus qui dit à Pierre « Jette tes filets, fais-moi confiance ». Et moi, j'ai vraiment reçu ça dans mon cœur, Alice, « Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance ». Donc, c'est un peu un miracle qu'on a vécu, parce que je pourrais pas trop vous l'expliquer. On a vraiment reçu une paix miraculeuse dans notre cœur qui nous a fait dire oui à Isaac. Et on est rentré chez nous le lendemain. Et en fait, c'est comme si on a accouché pour la deuxième fois en rentrant chez nous. Et on a regardé Isaac comme si c'était normal, quoi. Et en fait, depuis ce jour-là, on n'a plus jamais repleuré. Depuis ce jour-là, on n'a jamais remis en question cette trisomie. Depuis ce jour-là, on ne s'est jamais dit un matin, est-ce que c'est pénible qu'il soit trisomique, ça aurait été mieux s'il était dit normal. Non, jamais. En fait, ce jour-là, il s'est passé un miracle dans notre cœur, ça s'est inscrit, ça s'est gravé en nous. Isaac, il est porteur de trisomie, c'est notre enfant, mais on l'accepte d'une manière inconditionnelle. Et on lui a dit cette phrase en rentrant chez nous, on lui a dit, Isaac, on n'a pas choisi comment tu es, mais avec toi, on va choisir d'être heureux. Et en fait, une semaine après, le monde entier était confiné, parce qu'on était en mars 2020. Et on a été enfermés avec Isaac pendant 2 mois. Et pour nous, ça a été merveilleux. On n'a pas eu de visite, on n'a pas eu d'amis, on n'a pas eu de famille. On n'a pas eu de regard des autres, on n'a pas eu de médecin, on n'a pas eu de rendez-vous médicaux. On a créé en fait une relation avec Isaac pleinement. Et on s'est rendu compte que c'était un petit bébé qui avait les mêmes besoins que les autres. Il était absolument éveillé, il avait besoin qu'on l'aime, il avait besoin qu'on le change, il avait besoin qu'on le nourrisse. Ah, pour nous, ça a été merveilleux. Et je précise, Isaac aussi, il nous a fait entrer dans la parentalité d'une manière très douce, parce que c'est aussi lié à la trisomie. Ce sont des bébés qui pleurent très peu. Et moi, j'ai des amis qui ont des nourrissons. Je trouve ça terrifiant comme ils pleurent. Et en fait, moi, j'ai jamais connu ça avec Isaac. Il dormait très bien, il pleurait très peu, il nous regardait tout le temps. Ça fait un peu bébé idéal, hein.
Donc ça a été un démarrage en douceur, finalement.
En tout cas, un démarrage incroyable. Et je finis en vous disant ça. Donc Isaac n'a pas pleuré à la maternité pendant 5 jours. Quand on est rentré à la maison, on lui a dit, Isaac, on a beaucoup pleuré, nous, à la maternité. Et vraiment, on te demande pardon pour ça. Maintenant, on te pleure. Vas-y. T'es un bébé. T'as le droit d'exprimer, quoi, tes émotions. Bon, du coup, le soir, il a un peu pleuré. Peut-être parce qu'il a vu la déco et qu'il s'est dit, OK, en fait, c'est pas très beau.
C'était plus joli à la maternité.
Voilà.
Vous avez parlé du soutien de votre famille, de vos amis. Est-ce qu'il y a d'autres aides? Je pense aux aides médicales, aux aides peut-être administratives dont vous avez pu bénéficier dans les jours et les semaines qui ont suivi l'annonce du handicap de votre fils.
Il y a la pédiatre de l'hôpital qui, quand elle nous l'a annoncé, elle nous a proposé la psychologue de l'hôpital. Et en fait, donc le matin, on nous a annoncé la trisomie d'Isaac. Et à 17h, il y a la psychologue qui est venue me voir. Et pour moi, ça a été merveilleux. Parce que j'ai pu exprimer.
Vous avez posé les choses.
Ouais, j'ai posé des mots sur mes mots. J'arrivais pas à parler, en fait. Et la psychologue, elle était là, elle était face à moi, elle me disait, mais allez-y, madame. il faut que vous parliez. Et je disais, mais non, je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans ma tête. C'est trop violent, quoi. C'est trop violent.
Ça vous paraissait trop horrible de formuler.
Trop horrible. Mais bien sûr. Ouais. Trop difficile en tant que maman de poser des mots comme ça sur ton enfant, en fait.
Honteux, finalement.
Oui, honteux et puis culpabilisant, etc. Mais elle m'a dit, c'est la seule chose qui vous guérira. C'est la parole. Exprimer. Oser sortir les mots que vous avez en vous. Donc, j'ai vécu cette expérience psychique très puissante, hein. Et pour moi, ça a été incroyable. Et c'est aussi l'expérience que je fais vivre aux femmes à M21 et que les psychologues font vivre, c'est d'exprimer en fait. Et puis quand Isaac a eu 5-6 mois, j'ai eu besoin de refaire un petit peu thérapie, mais pas spécialement sur Isaac, un peu sur tout en fait. Et puis parce que je commençais à découvrir le monde du handicap, etc. Et c'est pas un monde facile. Et puis avant M21, j'ai eu besoin aussi moi de poser les choses. Parce que je savais que j'allais créer une association sur le handicap, etc. Donc voilà, j'ai refait un peu de thérapie quand Isaac a eu 5-6 mois, ça m'a fait du bien.
Est-ce que votre mari a pu bénéficier de ce même accompagnement psychologique?
Oui, mais lui, ça n'a pas été à l'hôpital, il l'a fait personnellement plus tard, voilà, avec un psychologue dans Lyon. Ça a été un choix personnel pour le coup, il n'a pas voulu à l'hôpital.
D'accord, voilà. il a pris davantage le temps.
Ouais, voilà, c'est ça.
Vous avez créé, Lise Drich, l'association M21, vous en avez déjà un petit peu parlé. C'était en septembre 2021, M comme merveille, et 21 en référence évidemment à la présence de ce troisième chromosome 21 au lieu de deux, à l'origine de ce handicap. Comment vous est venue l'idée d'une telle entreprise ?
En fait, quand Isaac a eu 5-6 mois, bon déjà la toute première graine qui a été semée dans mon cœur, c'est quand même à la maternité. Je trouve que la puissance de créer un projet, ça fait souvent sortir de la dépression en fait. Donc quand j'étais à la maternité et que j'étais pas bien, moi j'avais besoin de créer, j'avais besoin de penser. J'ai dit à Vincent, on va créer une association, on l'appellera Les Petits Soleils. Vincent m'a dit, bon tu te calmes déjà, on va accepter notre enfant, etc. Néanmoins, Vincent et moi, tous les deux, on s'est dit... Punaise, c'est fou, quoi. Il y a pas d'asso, là, de ligne téléphonique qu'on peut appeler. Parce que nous, on s'est dit ça. On s'est dit, est-ce qu'il y a une ligne téléphonique qui existe de soutien, etc., de gens qui peuvent vraiment répondre sur nos questions sur la trisomie 21? Parce qu'en fait, à l'hôpital, les médecins, ils répondent pas sur la trisomie 21. Ils savent pas ce que c'est. En fait, il y a pas la connaissance sur la trisomie 21.
On parlera de la formation, effectivement, des médecins.
Et du coup, en fait, quand Isaac a eu 5 mois, j'ai commencé à être contactée sur les réseaux sociaux par des mamans. Et ça devenait récurrent. Bonjour, je me tourne vers vous, je vois que vous avez un petit trisomique, je viens d'apprendre un diagnostic, je suis à 3 mois, 4 mois, 5 mois de grossesse, est-ce que je peux vous parler? Et en fait, j'avais un job, mais en dehors de mon job, je prenais ces appels toutes les semaines, j'en avais 3-4 par semaine le soir, ça devenait beaucoup quoi. Et en fait, j'ai dit à Vincent, mais c'est pas possible, si ces femmes elles se tournent vers moi, c'est qu'il y a rien. Donc j'ai benchmarké pendant 6 mois, j'ai fait des recherches en France, j'ai appelé les pontes de la trisomie 21. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a une ligne téléphonique aujourd'hui de soutien qui existe, SOS Trisomie, et qui est en lien avec le corps médical? La réponse a été cinglante, ça a été non de partout. Et puis surtout, on m'a dit, en fait, tu n'y arriveras pas parce qu'on ne peut pas travailler avec les médecins en France. Tous les médecins détestent la trisomie, c'est pas possible, c'est un monde qui est fermé, tu n'y arriveras pas. Et moi, quand on me dit que j'y arrive pas en général, ça me
fait plaisir. Oui, vous avez envie d'essayer.
Donc, je suis allée chercher de l'argent et j'ai créé M21, du coup. Et je me suis dit, voilà, en fait, c'est pas possible. Il y a des diagnostics tous les ans en France. Alors, il n'y a pas beaucoup de naissances, mais en fait, il y a toujours autant de diagnostics. C'est pas la question du rapport naissance-diagnostic. Il y a toujours autant de femmes chaque année qui reçoivent ces diagnostics et qui sont seules. Et qui savent pas vers qui se tourner, qui sont souvent rejetées par les familles. Voilà, quand ce diagnostic tombe, c'est toujours terrible, en fait. C'est toujours un drame. Et ces femmes, elles sont toujours seules. C'est les oublier, quoi. Et en fait, même quand on vit un avortement, on mérite d'être accompagné, on mérite d'être écouté. Parce que c'est traumatique. Et pour se reconstruire même dans un couple, pour réenvisager un enfant, il faut se faire accompagner. Il faut pas prendre ça à la légère, c'est pas rien.
Vous parlez des femmes, il y a des hommes qui appellent l'association M21.
Oui, je parle beaucoup des femmes parce que malheureusement, les hommes, c'est mon gros combat. Ça, c'est une énorme difficulté. Depuis 2 ans, on a accompagné à peu près 200 femmes. Et non, 100, allez, je dirais 180 femmes et 20 hommes. Voilà. Toutes ces femmes, elles sont toutes mariées, hein. Mais les hommes, c'est très dur. Les hommes partent du principe qu'ils n'ont pas d'émotion. Les hommes partent du principe qu'ils sont verrouillés. Les hommes ont du mal à avoir accès à ce qu'ils ressentent profondément. Donc, quand ils vivent quelque chose de dur, c'est « je suis un bonhomme, je tiens ma famille, je suis là, je suis fort, quoi ». Et en fait, la notion de la faiblesse, de la fragilité chez l'homme, elle est très complexe. Et en particulier sur le handicap. Comme si le handicap venait réveiller quelque chose chez l'homme de l'ordre de la virilité, de... Mais en fait, c'est horrible d'avoir un enfant handicapé. Donc déjà, j'en veux pas. Et deux, je vais pas parler de ça, en fait. Je vais pas dire ce que je ressens parce que j'ai honte aussi.
Oui. Donc les hommes... Ce serait me rabaisser peut-être.
Ce serait me rabaisser, etc. Voilà, c'est ça. Donc moi, je crois qu'il y aura un gros changement sociétal lorsque les hommes comprendront qu'ils ont, un, le droit de pleurer. Ils ont le droit d'être faibles.
Exprimer leurs émotions.
Ils ont le droit d'être fragiles. Ils ont le droit d'exprimer leurs émotions. Et en couple, les femmes, on est là aussi pour écouter les hommes. Les hommes pour nous écouter, mais nous aussi les écouter. Nous, avec Vincent, c'est ce qu'on a vécu de très puissant dans notre couple, et on en parle dans notre conférence, vous verrez ce soir. On parle beaucoup de ça, de la complémentarité homme-femme, du fait qu'on est une équipe en couple, qu'on n'est pas là l'un contre l'autre, et qu'il faut s'écouter. Et Vincent, il s'est pris une grosse claque à la naissance d'Isaac. Parce qu'il a toujours été très fort, mais en fait, la trisomie 21, Vincent, ça a brisé son cœur dans le bon sens. Ça lui a donné accès à ses fragilités, à ses vulnérabilités, etc. C'est plus le même homme. Hein. C'est extraordinaire. Et les hommes sont appelés à vivre ça. Mais est-ce qu'ils ont envie? Ça, c'est la question.
Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, les personnes peuvent vous appeler, peuvent appeler ce numéro 09 voilà. 86 87 21 01. Que vous demandent ces personnes et notamment ces mamans qui vous appellent en grande majorité?
En fait, quand les gens appellent à M21, ils tombent en général sur une boîte vocale et on leur écrit tout de suite, dans l'instant, dans la seconde. On leur envoie un texto et on leur dit... Voilà l'étape à M21. Soyez les bienvenus, bienvenue dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Vous êtes au bon endroit. On va vous proposer dans un premier temps d'avoir une thérapeute au téléphone ou une psychologue qui va être là pour se concentrer sur votre choc émotionnel. Et après, dans un second temps, la semaine d'après, on vous proposera un appel avec un parent qui est expert sur la trisomie 21 pour répondre à toutes vos questions sur le handicap. L'appel, il se fait en deux temps. Mais l'appel sur le choc traumatique, il est vraiment dans l'urgence. En général, on donne un appel et une dispo dans l'après-midi ou le lendemain. Pourquoi? Parce que une femme aujourd'hui en France, quand elle reçoit ce diagnostic, à 4 ou 5 mois de grossesse, les médecins lui disent « vous avez 4 ou 5 jours pour choisir ».
Et le délai de réflexion
par rapport à l'avortement est très court, donc ils ont beaucoup de pression, et donc il faut être très très rapide et très réactif pour être là pour eux. Voilà. Peu importe leur décision, pour être là pour eux, pour les écouter, pour les accompagner, etc. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, et après, une semaine après, en général, on donne un appel vraiment axé sur le handicap. Au départ, il n'y avait qu'un seul appel. Mais en fait, en parlant dans l'association, avec les membres de l'association, on s'est rendu compte que cet appel sur le choc émotionnel, il est essentiel. Et qu'il ne faut pas mélanger le choc émotionnel et le handicap. Le choc émotionnel qu'on vit, qui est psychique quand on a ce trauma de l'annonce, il prend un appel entier, en fait. Il prend en général une heure. Voilà, parce que c'est énorme, tout ce que ces couples vivent, ressentent, etc. Voilà.
Et après, il y a un deuxième appel pour poser des questions finalement sur son handicap.
Et après, si les parents font le choix de garder l'enfant, ils peuvent revenir vers nous un mois avant la naissance, s'ils ont encore des questions sur la trisomie, s'ils ont besoin de se confier, ou un mois après la naissance. Pour là, on va les aider pour les démarches administratives, pour les mettre en lien dans un réseau de parents dans leur ville, pour les aider à trouver des professionnels de santé, et puis tout simplement pour leur dire bienvenue dans le monde de la trisomie 21 et mettre une petite communauté autour d'eux pour pas qu'ils soient seuls en fait.
Et si les personnes n'envisagent pas l'avortement, ils peuvent pas avoir cette conversation quand même avant une telle décision? Vous avez dit que le deuxième rendez-vous, c'était si les parents gardaient l'enfant.
Non, en fait, même s'ils poursuivent pas la grossesse, ils ont le droit. Enfin,
ah oui, d'accord.
Tous les couples ont.
Deux rendez-vous.
Voilà. En fait, tous les couples ont deux rendez-vous. Et après, c'est eux qui choisissent. Donc, il y en a qui prennent que la thérapeute. En général, les gens qui ne poursuivent pas la grossesse ne veulent pas avoir l'appel en fait sur ce qu'est la trisomie 21. Ils souhaitent juste en fait vraiment se confier sur ce qu'ils vont vivre. Voilà. Donc, ça dépend en fait. Et des fois, on a des couples qui ne poursuivent pas la grossesse et qui ont quand même vraiment des appels très très détaillés sur la trisomie 21, qui font choix de l'acceptation. Et en fait, qui se sentent pas capables. Vous savez, c'est très intéressant parce que j'ai lu ça récemment. La cause numéro un de l'arrêt de grossesse en France dans la trisomie 21, c'est la société. Je ne veux pas élever cet enfant dans une société qui ne l'accepte pas. Mais en même temps, moi, je comprends. Bien sûr que non, que notre monde, il n'accepte pas la trisomie et notre pays. Bien sûr que non. Mais ça rend fou toutes les démarches qu'on doit faire, comme on doit mettre des coups de pied dans les portes, comme on doit se battre pour tout. En fait, la vérité, c'est qu'on se bat pour tout. Ça, c'est sûr, évidemment. Moi, j'aimerais vraiment monter plus haut au gouvernement et leur dire, mais c'est quoi votre problème? C'est pas possible, quoi. Et c'est pas que la trisomie 21, c'est le handicap de manière générale. Les dossiers qu'on doit faire, les dossiers administratifs. En fait, tout ça fragilise le couple. C'est aussi pour ça qu'il y a un couple sur deux qui divorce en cas de handicap. C'est que c'est vraiment une montagne. C'est lourd, c'est difficile. J'en parlais encore la semaine dernière avec une amie qui a un porteur de trisomie 21 en Suisse. Elle m'a dit, mais en fait, la trisomie 21 d'Amélien, mais c'est pas du tout difficile au quotidien. Il a 8 ans, moi je me sens heureuse dans ma maternité avec lui. Ce qui est lourd, mais c'est l'école, les démarches administratives, les professionnels de santé. Voilà, bien sûr. Ça, c'est lourd.
Je voudrais qu'on dégonfle quand même un petit ballon de baudruche, parce que peut-être un gros d'ailleurs. Vous avez fait part de votre foi au tout début de notre entretien. Mmh. Et puis, vous dites que vous accompagnez donc les personnes qui ont cette annonce du handicap de leur enfant. Et puis, évidemment, vous les laissez libres de choisir ou pas de garder leur enfant. Est-ce que, pour votre conscience, la décision de parents de mettre fin à une grossesse, c'est, enfin, comment vous le vivez?
C'est une belle question. Ça m'a beaucoup fait grandir, M21, et surtout, ça m'a rendue très, très, très humble face à toutes ces femmes. Parce que je réalise déjà, la violence, en fait, la violence qu'elles reçoivent de toutes parts quand elles prennent cette décision d'avorter. Il y a eu des catholiques qui ont arrêté la grossesse à M21 qu'on a accompagnées. Et en fait, je pense qu'elles ont encore plus souffert que celles qui n'avaient pas de religion, tellement elles ont été jugées, jugées partout, jugées par leur famille, jugées par leur paroisse, jugées par leur communauté, jugées même des fois par les évêques. Je trouve ça terrible. En fait, qui on est pour juger les gens? Et je crois que si on est chrétien et qu'on n'a toujours pas compris que notre seul devoir, c'est d'aimer, c'est qu'il faut changer de religion, en fait. Voilà. Et donc, moi, je vous dirais que ça m'a vraiment fait grandir en humilité. Je respecte tout à fait qu'il y a des femmes qui ne seront jamais capables de poursuivre des grossesses d'enfants porteurs du handicap. Et en fait, c'est leur droit. C'est comme ça. Et elles ont le droit. Et c'est, il faut les aimer, ces femmes. Il faut les accompagner, il faut leur redonner de la dignité dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'elles vivent. Il faut les écouter, il faut prendre en compte leurs émotions et prendre en compte les couples et vraiment leur dire, et moi j'insiste là-dessus, tous ces couples qui arrêtent la grossesse et qui ne se font pas accompagner, ça me rend triste parce que derrière, ils ont d'autres enfants, etc. Et ils n'ont peut-être pas assez mesuré que y a un vrai choc traumatique dans le fait de vivre ça et il faut le traverser, c'est une tempête. Mais vous aurez un jour nouveau après et ça va aller, c'est pas la fin de tout, quoi. Et... donc moi, je dirais vraiment que ça m'a rendu humble, qu'il faut vraiment arrêter de juger, arrêter de critiquer, et que ça ne nous regarde pas, en fait, c'est la vie des gens. Et je crois que je suis même, j'ose le dire, fière en tant que chrétienne. C'est ma foi personnelle. M21, c'est une association inconfessionnelle et apolitique. On accompagne des gens athées, on accompagne des musulmans, on accompagne des juifs, on accompagne des chrétiens, on accompagne tous les couples. Mais je suis fière d'être une association comme ça, qui aime profondément les gens, quoi.
Je vous propose de faire une petite pause à l'Isdrich et puis nous reprenons cet entretien et cet échange dans quelques minutes.
Quand j'ai pointé le bout de mon nez sous vos regards ravis, vous ne vous en doutiez pas du secret que j'avais gardé en rêvant de la vie au chaud pendant 9 mois. Le docteur a fait remarquer mes petits yeux en amande et mon nez un peu trop plat. Maman, elle a beaucoup pleuré, papa déboussolé, n'osait parler de moi. Mais moi je suis joyeux, oh, 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 oh. Je veux pas vous dire. Avec mon grand frère, lui il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prennent autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante je parvienne à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille, pro et copains sont là à nos côtés. Avec moi joyeux, oh, 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 oh. Je vais tous vous chambouler, vous apprendre à aimer. Joyeux, oh, 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 oh. Voyez mon cœur immense avant ma différence. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop. Ça vient avec bien plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. de mes parents. Est-ce qu'en grandissant, je serai indépendant? Mais moi, je compte bien prouver tout ce que j'ai à donner en allant travailler au café joyeux. Oh, oh, oh.
Église, Isabelle Duché.
De retour dans notre échange avec Alice Drich, qui est fondatrice de l'association M21M comme merveille et 21 comme ce petit chromosome en plus. Alice Drich est maman d'un petit Isaac qui a 4 ans et avec son mari Vincent, ils parcourent la France et notamment ils sont de passage à Toulouse, ils ont été de passage à Toulouse pour livrer leur témoignage et sensibiliser au diagnostic, à l'accueil du diagnostic de la trisomie 21. Quand vous rencontrez d'autres parents porteurs de trisomie 21, parce que c'est aussi l'occasion quand vous faites vos tournées de voir d'autres parents, d'autres familles, quelles sont les joies qu'ils vous partagent dans leur parentalité?
Elle est belle cette question. Déjà la joie, je crois qu'on a tous en commun, c'est qu'on vit au présent. Quand on a des enfants comme ça, on peut pas se projeter, on peut pas vivre dans l'avenir, on peut pas vivre dans le futur. Et je dirais que ces enfants-là, ils nous donnent une espèce de joie surdimensionnée, en fait. Quand on a un enfant normal, il marche, c'est normal, il apprend à parler, c'est normal, il va manger, c'est normal, tout est normal, en fait. Un enfant porteur de trisomie 21, on se dit tellement qu'il arrivera à rien faire, ou en tout cas, des fois, les médecins peuvent dire ça, malheureusement, que quand il arrive à faire, c'est extraordinaire. Donc, tout est décuplé.
Cadeau.
Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est des enfants qui redonnent de la saveur au quotidien. Avec nos enfants, ils nous donnent tous les jours, je dirais, de vivre un petit miracle, quoi. Un enfant trisomique qui arrive pas à manger, qui réussit à manger un plat de pâte bolo, c'est un miracle. Un enfant trisomique qui arrivait pas à se faire couper les cheveux, qui réussit à se faire couper les cheveux, c'est un miracle. Un enfant trisomique qui arrive à monter tout seul un escalier, c'est un miracle. Et donc, je dirais que ce qu'on a peut-être en commun, c'est vraiment qu'on a souvent de la fête. On a souvent la fête chez nous, quoi. Il y a beaucoup de joie.
Chaque petite victoire est célébrée,
oui,
en fait.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de joie, ouais. Nous, à la naissance d'Isaac, il y a une amie, Edwige, qui nous a dit, vous faites un beau repas à chaque fois qu'Isaac fait un progrès. Bon, ben, on mange des burgers tous les jours. Hein. Voilà. Donc, tout est décuplé, tout est plus puissant. Et, moi, en tout cas, je dirais que Isaac, c'est vraiment ça qui m'a appris dans ma maternité. C'est chaque jour est un miracle. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est ça qui rend heureux. J'aime bien dire en conférence que notre monde, il ne manque pas de merveilles, mais il manque d'émerveillement.
Mmh. Encore faut-il les voir, effectivement, ces merveilles.
Oui, bien sûr. Et du coup, je crois que, avec mes amis qui ont des enfants trisomiques, c'est vraiment ça qu'on se dit, c'est des enfants qui donnent une espèce de place à l'émerveillement qui est incroyable, quoi.
Vous avez ce témoignage sur le site d'M21 d'une jeune maman solo qui dit « La trisomie va avec la vie, ce n'est pas un frein. » Et après, elle témoigne, elle dit « C'est fou comme cet enfant m'a transportée. Je suis trop contente qu'il soit dans ma vie avec sa trisomie. »
Ouais, c'est Caroline. Elle est extraordinaire. On l'aime beaucoup. Ouais, cette vidéo, elle est magnifique. Et j'ai voulu faire cette vidéo de Caroline qui est maman solo parce qu'on accompagne beaucoup de mamans solo à M21 aussi. On accompagne cette réalité de ces femmes qui font le choix de poursuivre la grossesse et dont le compagnon n'est pas OK. Ça, c'est une réalité, hein. Dans le monde du handicap et de la trisomie 21, c'est qu'il y a souvent des hommes qui partent. Et du coup, le témoignage de Caroline m'a beaucoup touchée. Je voulais montrer une maman solo, bah, qui est hyper heureuse, quoi. Elle a plein de challenges avec Edine, avec sa fille, mais en fait, elle est heureuse, elle est profondément heureuse. Et je crois que nous, c'est aussi ce qu'on veut dire avec Vincent, c'est pas politiquement correct, mais on est très heureux d'être parents d'un enfant porteur de handicap. Et en fait, ça, on a envie de le dire tout le temps, on a envie de le crier sur les toits. Bien sûr qu'on peut être heureux dans notre parentalité.
Et ça fait du bien de l'entendre.
Bah oui, c'est clair, parce que personne ne le dit, quoi. Et en fait, nous, on le dit, et il y a plein d'autres parents qui le disent, et il faut l'entendre. Oui, on peut être heureux, bien sûr.
On peut être heureux et pourtant il ne faut pas négliger les difficultés parce qu'il y en a. Vous avez parlé des questions administratives. Votre petit Isaac, pour l'instant, a une bonne santé. Il n'a pas de pathologie. Vous l'avez exprimé à Alice Drich au début de notre entretien. Et pourtant, on sait que un certain nombre d'enfants ont une santé fragile, des hospitalisations à répétition. Il y a quand même des difficultés. Il ne faut pas les nier.
Donc non, on ne dit pas le mot difficulté. On dit le mot challenge dans notre vie. On accorde énormément d'importance aux mots. Et surtout, quand on a un enfant porteur de handicap, chaque mot est important. Pourquoi ? Parce que les mots, ils définissent notre vie. Quand on a un langage avec des mots négatifs, ben, notre vie, elle va être négative. Et nous, on aime bien comparer notre vie avec Isaac et un sportif. On a une vie sportive, donc on a une vie qui est pleine de challenges. Déjà aussi, on adore les Anglais, donc c'est pour ça qu'on dit challenge. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que nous, à chaque fois qu'on a un nouveau challenge avec Isaac, c'est « Ok, là, on a un challenge cette semaine, Isaac. Ben, émotionnellement, là, cette semaine, ça va être dur. » Bah, il a du mal à sortir de lui, il a du mal à parler, donc il est frustré, il crie. Ok, bah, ça va pas être facile. Et ben voilà ce qu'on va mettre en place cette semaine pour passer ce challenge. Et une fois qu'on l'a passé, ok, ben qu'est-ce que ça va être le prochain ? En fait, notre vie, c'est ça. Notre vie, on va de challenge en challenge, de joie en joie, de victoire en victoire. Voilà. Et là, on sort de 12 jours de spit avec Isaac pour une thémopathie. On a failli pas venir à Toulouse. Et ça a été un challenge. Mais en fait, dans tous les challenges qu'on a avec Isaac, on apprend à choisir la joie. Et c'est possible. Et c'est magnifique. Et moi, j'aime bien dire que la joie, elle n'empêche pas les épreuves. La joie, elle n'empêche pas les challenges, les difficultés, ce que vous voulez. Pas du tout. Mais par contre, choisir la joie dans l'épreuve, bah, c'est un chemin tellement libérateur. Et puis surtout, c'est en fait Isaac, il a tellement de joie à donner que, en fait, on s'inspire de lui, quoi. Isaac, il est toujours joyeux. Même quand il est très énervé ou qu'il est très frustré ou qu'il crie beaucoup... Une seconde après, il va passer à autre chose et il va nous faire pleurer de rire. Isaac, c'est une montagne russe émotionnelle, quoi. Et en fait, avec Isaac, même quand il crie, tous les jours, il nous fait rire. Même quand c'est difficile, tous les jours, il nous fait rire. Il n'y a pas un jour depuis 4 ans où on n'a pas ri avec lui.
Et finalement, cet enfant est une thérapie pour vous obliger à être joyeux.
Ça, c'est vrai, ouais. Absolument. Moi, il m'apprend vraiment ça. Et puis, on a eu un très beau clin d'œil aussi, c'est que à la naissance, quand on a su pour sa trisomie, c'est Vincent qui m'a dit « Mais regarde comment on l'a appelé. » On a reçu son prénom dans la prière. Et Isaac, c'est le sourire de Dieu. Dieu rit. Et en fait, Vincent, il dit, mais ça fait 4 ans qu'on se couche tous les soirs avec le sourire de Dieu à la maison et qu'on se lève avec. Et c'est vrai, Isaac, c'est vraiment, c'est une forme de thérapie, absolument. Oui, il y a des challenges, c'est clair, mais qui sont déjà, un, pas du tout insurmontables. Et deux, ça demande, moi, je trouve, en tant que parent, une grande humilité de beaucoup nous remettre en question. Isaac, il nous challenge, nous aussi, personnellement, parce qu'il nous met face à nos limites. Bien sûr. Et donc, il faut aller travailler sur soi. Il faut aller comprendre. Ok, pourquoi là, j'ai pas de patience? Pourquoi là, je suis en colère? Pourquoi? Voilà. Je crois que c'est ça, la parentalité. C'est vraiment un lieu tellement d'humilité. C'est vraiment un chemin qui est éprouvant, hein. Qui est magnifique, mais qui est éprouvant. Et donc, nous, avec Vincent, on se remet énormément en question. Et tout le temps pour se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut vraiment, ben, servir Isaac? Je finis en vous disant ça. Moi, dans ma maternité avec Isaac, je me dis tout le temps, et si j'étais trisomique, je voudrais que mes parents soient comment avec moi? Et donc c'est ça que j'offre à Isaac, c'est que j'essaye d'être la meilleure maman pour lui tout le temps, de travailler ma colère, de travailler mon impatience, de travailler tout ça pour vraiment, en fait, quand lui il est frustré, quand lui il est impatient, quand lui il est en colère, que moi je sache garder mon calme. Parce que en fait, si je mets mon colère à chaque fois qu'il crie, ben non, ça va pas matcher, quoi. Et pourtant lui, c'est normal qu'il crie parce qu'il est frustré, parce qu'il sait pas parler. Et moi, je suis pas trisomique. Et donc comment moi je peux le conduire, comment moi je peux le guider, comment moi, il y a des jours j'y arrive, il y a des jours j'y arrive pas, hein. Je suis pas du tout parfaite. Mais en tout cas, c'est un sacré chemin d'humilité et de joie.
Oui, certainement. Et puis, vous devez avoir, comme vous dites, je suis pas parfaite, vous devez avoir des moments de découragement aussi.
Bien sûr, mais j'ai mélioré.
Rassurez-nous quand même.
J'ai des grands moments de découragement parce que je suis très entière. Donc, quand je vais bien, je vais super bien. Et quand je vais mal, je vais très mal. Mais je commence à me connaître et maintenant, je sais bien m'apprivoiser. Et surtout, j'ai des lieux ressources. Quand j'ai eu Isaac, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que je mette vraiment en place un lieu ressource. C'est-à-dire, ok, je laisse Isaac 3-4 jours à Vincent et moi, je me retire. Et donc, j'ai une abbaye près de Lyon avec des sœurs que j'aime énormément et voilà. Et
c'est votre lieu de ressources.
Et c'est mon lieu ressource. Ouais. Et donc, j'y vais 3-4 fois par an. Voilà. Et j'y vais 24 heures, 48 heures et je reprends des forces. Et, et c'est, ça marche du tonnerre.
Alors, dans votre tournée, Alice Drich, vous avez quand même vous sensibilisez au handicap. L'année dernière, vous avez quand même rencontré 6000 personnes. Quel constat faites-vous de leur connaissance ou pas, ou peu, de la trisomie 21?
Ouais, elle est super cette question. Bah, en fait, le constat, il est dramatique, très intéressant mais dramatique. Ça fait 3 ans qu'on se balade dans presque tout, enfin énormément d'établissements en France, scolaires, de la troisième à la terminale, dans des facultés, près d'étudiants ou même des gens en soirée. En fait, quand on sonde les gens, on démarre notre conférence en leur posant cette question. Trisomie 21, tac, tu me réponds sans réfléchir. Qu'est-ce que c'est pour toi? Et donc, on part vraiment des premières pensées des gens, pas d'une pensée réfléchie, mais vraiment d'une pensée spontanée. Pour vraiment partir des préjugés des gens, c'est très intéressant. Et c'est terrible, c'est terrible. Ils ont une image de la trisomie 21. Tout le monde connaît ce mot, mais personne ne le connaît. Alors évidemment, dans les établissements scolaires, tout le monde connaît trisomie, triso, mongole. C'est en plus des insultes qui sont réelles. Hein. Donc, ce mot de trisomie 21, il est très lourd. En fait, il a un héritage péjoratif qui est effrayant. Il n'y a pas de connaissance, il faut la donner. Donc nous, maintenant, on se rend compte, nous, c'est ça qui nous donne aussi le feu avec Vincent, c'est qu'on a la connaissance aujourd'hui de la trisomie 21. On sait ce que c'est. Il y a des scientifiques qui recherchent la trisomie 21. On sait ce que c'est, on sait les pathologies associées, etc. On sait aujourd'hui comment un trisomique se développe. On reviendra jamais en arrière là-dessus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, bah, j'ai envie de dire, il faut partir sur les routes et l'annoncer de partout. Et il faut donner la connaissance. Il faut donner la connaissance sur le handicap et la connaissance sur la trisomie 21 pour que les gens arrêtent d'avoir des préjugés comme ça, quoi.
Et l'association M21 forme aussi les médecins à l'annonce du handicap et sensibilise les étudiants en médecine. Quelle formation reçoivent-ils au cours de leur cursus universitaire dans ce domaine?
Ils en reçoivent aucune.
Aucune?
Aucune. 12 ans d'études, une après-midi sur le handicap. Donc sur le handicap. Le,
oui,
tout handicap confondu. Une après-midi sur tout le handicap. Donc vous imaginez bien déjà, un, qu'ils entendent rien sur la trisomie, et deux, je ne sais pas ce qu'ils entendent sur le handicap. J'ai été approchée il y a 2 mois par un médecin qui m'a dit, ben voilà, je suis tout jeune médecin, et en fait, j'annonce des mauvaises nouvelles toute la journée, et en fait, j'ai pas été formée, c'est une catastrophe, je ne sais rien de la trisomie, je ne sais rien du handicap, et donc on est en train de travailler ensemble sur un projet génial qui va voir le jour en septembre prochain, où on va vraiment créer une formation certifiante pour les médecins sur l'annonce. Et on va vraiment se déplacer dans les maternités, dans les hôpitaux, on va aller à la rencontre des pédiatres, des gynécos, des obstétriciens, et on va vraiment leur apprendre à annoncer comment on annonce une mauvaise nouvelle. Déjà, ça c'est très important, parce que c'est ça qui traumatise les gens. Hein. Et deux, on va leur donner la connaissance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une famille et qu'est-ce que vous pouvez pas dire? Appel M21 la semaine dernière, bonjour, on m'annonce une trisomie 21, je suis à 4 mois de grossesse. Le gynéco, il m'a dit que mon enfant, il parlera jamais, qu'il marchera jamais, mais moi, je veux pas d'un enfant comme ça. Et en fait, ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça à une femme. Bien sûr que si, qu'il marchera. Mais plus tard que les autres.
Il prendra son temps.
Vous connaissez un trisomie 21, un trisomie qui marche pas? Bien sûr que non. Donc voilà, donc il y a vraiment encore des hérésies qui se transmettent de génération en génération. Il y a des préjugés qui continuent de se transmettre. Donc ça, c'est terrible. Et donc, il faut aller voir le médecin. Mais par contre, moi, je suis vraiment hyper positive et je suis dans un super état d'esprit parce que je me rends compte que la nouvelle génération a vraiment envie de faire la différence. Que pour le coup, eux, ils ont envie de se faire former. Ils ont envie d'apprendre. Donc ça, c'est génial. Ils ont un cœur qui reçoivent, quoi. Donc franchement, ça, c'est chouette.
Donc finalement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez une ligne téléphonique, une présence sur les réseaux sociaux. Donc je précise, votre compte sur Instagram M21. Vous faites des conférences dans toute la France auprès du grand public, du personnel médical. Vous distribuez des flyers dans les maternités, chez les sages-femmes, les gynécologues. Vous avez ce projet de formation. Qu'est-ce qu'il reste à faire?
J'ai envie de faire un autre métier. Non, la chose qui me reste à faire après, ça sera de trouver un juste équilibre, parce qu'aujourd'hui ma vie elle est centrée sur le handicap, donc c'est génial et c'est hyper épanouissant et j'adore, et il y a des choses incroyables à faire. Néanmoins, avec Vincent aussi, on envisage d'avoir une famille plus grande, plus élargie, et je pense qu'on ne peut pas acquérir un autre enfant aussi quand on est toujours centré sur le premier. Isaac, il nous a fait vivre une expérience extraordinaire depuis 4 ans, c'est fou ce qu'on a vécu avec lui. Mais voilà, on se rend compte aussi que lui, il est à l'école maintenant, que les voyages, c'est fatigant. Et même pour lui, c'est fatigant.
Oui, parce que vous l'emmenez dans vos tournées.
On l'emmène de partout, ouais. On l'emmène de partout avec nous. Donc ça, ça a été une aventure incroyable. Mais on sent que là, il va falloir que ça se pose. Que nous, on se pose aussi. Et qu'on arrête tranquillement les voyages. Et puis moi, je voudrais envisager un autre métier en dehors du handicap. Parce que voilà, je sens aussi que j'en ai besoin. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu trop tout auto-centré sur le handicap. Voilà. Et j'ai un job que je rêve de faire depuis mes 20 ans et j'aimerais bien le réaliser.
Lequel? C'est surprise.
J'aimerais bien faire du conseil conjugal.
Ah oui, ben voilà. Vous parlez très bien du couple, donc ouais. Effectivement, je pense qu'il y a une voilà. Petite fenêtre, une grande fenêtre qui s'ouvre. Merci beaucoup Alice Frisch, fondatrice de l'association M21. Je redonne le numéro de téléphone 09 86 87 21 01 pour recevoir une écoute pour les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de trisomie 21 détecté en cours de grossesse ou à la naissance. Vraiment un grand merci Alice Frisch.
Merci à vous.